vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Il retrouve l'appartement, la porte ouverte, toutes les portes sont ouvertes, les pièces sont complètement vides. Elle s'est dit, nous allons demander au vieux, son voisin. La porte s'ouvre, c'est le vieux. Elle s'y lui dit, vous me reconnaissez, monsieur?
Oui, bien sûr.
Et je lui demande, on a déménagé l'appartement de monsieur Dilos? L'homme lui dit,
oui, c'est la famille qui a fait prendre tout ça par Emmaüs.
Et s'il lui dit, si vite?
Oui, dès qu'ils ont appris qu'il était à l'hôpital, ils ont tout fait déménager. Ça a été très vite. Ils avaient dit que vu son état, il ne reviendrait pas. Or, nous aussi, nous allons partir. Nous avons reçu l'ordre d'expulsion. L'immeuble va être démoli.
Et s'il lui dit, il a décédé ce matin. L'homme lui dit,
là au moins où il est, il n'y a pas de souci à se faire. Mais moi, nous, où allons-nous aller?
Et s'il lui dit, je vous remercie monsieur, je suis navré et bonne chance.
Au revoir.
Et les deux jeunes gens quittent l'immeuble. Mathieu dit, étrange, très étrange, plus de traces de ta nuit, sauf peut-être à Lyon. Et tu lui dis, laisse tomber, on va pas aller à Lyon, quelle histoire. Pendant ce temps, la mère d'Alexis en donnant un coup de balai sous son lit, trouve la broche et la regarde bien. Qu'est-ce que c'est que cette saleté? C'est lait. Elle la met dans la poubelle et le sac poubelle va le mettre dans la poubelle en bas. Un vieux clochard, plutôt clodo, barbe et cheveux blancs, sale, fait les poubelles, voit le sac poubelle, l'ouvre et trouve le bijou. Mince, ça alors, c'est de l'or. Il le met dans sa poche. Une heure plus tard, le clodo est sur un pont de Seine. Assis sur un banc, il mange un morceau de pain. Ce soir, à côté de lui, un autre clodo, comme lui, qui lui dit « Salut Auguste, salut !» Que tu dis « J'ai pas trouvé le Pérou. Aujourd'hui, rien que des fringues pourries. Et toi, Auguste, lui, moi aussi, j'ai trouvé le Pérou. » Et il lui montre le bijou. Il lui demande, où as-tu trouvé ça? Auguste lui dit, dans une poubelle, mon vieux. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Rien. Le vendre plus tard. Il remet son bijou dans sa poche, un peu je savais. Il lui demande, tu ne me le vends pas? Auguste lui dit, il est trop cher. Ça vaut son pesant d'or, ça. C'est la preuve de l'existence des... Donc tu dis, tais-toi. Faut pas que l'on sache que tu as la preuve. Auguste lui demande, pourquoi? Comme ça, nous pourrions être débarrassés de ces... qui savent que c'est vrai. Donc tu dis, ne fais pas de bêtises, attention. Auguste hausse les épaules et lui dit, je ferai ce que je veux, moi. Donc tu dis, tête de mule, va. Il hausse les épaules, Auguste lui dit, ne me dis plutôt pas, pour si peu. Donc tu demandes, et si on te fait voler? Si on te vole, Auguste lui dit. J'ai la broche. Tu ne peux voir rien. Tu te fais des fautes et lui dit. N'en parlons plus. Hein? Ils passent la journée ensemble. Ils parlent plus de cette chose. Ils se promènent sur les quais, font la manche, boivent des verres. Le soir arrive. Auguste est un peu ivre. L'autre traîne dans les ruelles de plus en plus tristes. Puis, lorsque la nuit est là, il le mène dans une rue déserte. L'autre l'a poussé dans l'allée d'un immeuble. Auguste est complètement ivre. L'autre le mène au fond de l'allée. Auguste demande,
c'est là qu'on va dormir. L'autre ne dit rien. Il planque Auguste contre le mur. Sort de sa poche un couteau à grand arrêt. Il lui dit, mon pauvre Auguste, va. T'avais bien dit de pas te mêler de ces histoires. C'est trop fort pour nous. Auguste, complètement ivre, ne se rend compte de rien, ne comprend rien. L'autre lui donne un coup de couteau dans le corps. Le sang en gicle lorsqu'il retient le couteau. Auguste fait la grimace, trop ivre pour réagir. L'autre lui donne encore trois coups de couteau. Les vêtements d'Auguste sont pleins de sang. Ses yeux deviennent globuleux. Il s'affaisse comme un pantin. L'autre se penche et fouille dans ses poches. De la gabardine, il sort le bijou, la met dans sa poche, lâche Auguste qui s'effondre, mort, et il sort en vitesse de l'allée. Il se sauve. Marche dans les rues, marche pendant un long moment, dans les rues de plus en plus désertes. Il est entré dans une allée d'un vieil immeuble. Monte jusqu'au premier. Là, il ouvre une porte d'appartement. C'est sombre. On n'y voit pas grand-chose. Il n'éclaire pas. Vite, il prend le bijou, le met sur une commode, puis se déshabille. Une fois déshabillé, nu, il quitte sa perruque et sa fausse barbe et ouvre une porte. C'est une sorte d'eau pour prendre une douche. Puis, il s'habille de vêtements propres. Prend la broche et sort de l'appartement.
marche d'un bon pas. Le quart. Et là, il marche. Mais c'était plus dans un quartier populaire. Place de l'Étoile. Il s'arrête, sonne à l'interphone d'un bel immeuble du 19e de 4 étages. Oui, c'est moi. Bien, entrez. Il pousse la porte d'entrée et entre. Belle l'entrée en marbre. Il va à l'ascenseur, qui est un ascenseur à l'ancienne. Monte jusqu'au dernier étage. Là, la porte s'est ouverte, apparaît une femme rousse, cheveux tombants, habillée d'un kimono noir. Elle lui dit « Entrez !» Il entre. Elle a fermé la porte. C'est un hall d'entrée, beige, en demi-cercle, avec des portes qui sont avec les boiseries blanches. Elles sont vitrées. Elle lui demande, alors ? Il lui dit, voilà la chose. Jolie, ma foi, ma chère. Il lui tend le bijou. Elle le prend, le met dans la poche de son kimono. Elle lui dit, merci. Il lui dit, pas de quoi. Mais quel métier ! J'ai vécu au milieu des rats et des puces. Elle lui fait, mon pauvre petit. Il lui dit, oui, mon pauvre petit. Elle lui dit, vous voulez boire un cognac? Ça vous remettra. Il lui dit, oui, merci. Elle ouvre une porte à deux battants, éclaire, et le fait entrer. C'est un très beau salon, Louis XV, très grand. Assoyez-vous. Elle le fait asseoir dans un fauteuil. Elle va chercher la boisson. Lui, il essaye de se détendre. Chercher une boisson dans le coin bar. Elle revient avec un verre et une bouteille. Fait le service. Lui tend le verre. Merci.
Elle s'assoit en face de lui et lui demande « Ça a été difficile ?» Il lui dit « Non, mais sans le métier. » Elle lui fait « Mon pauvre Harold, il fallait bien que vous fassiez ça au moins une fois, ce genre de choses. Moi, j'ai fait des centaines de fois. » Il lui dit « C'est pas la même chose. Moi, j'ai pas été programmé pour ça, pour ce genre de choses. Et puis, j'avais un appartement secret, vous vous rendez compte ?» Elle lui dit « Moi aussi ?» Il lui dit « Et tout ce sang, c'est dégoûtant. Et puis c'était sale. » Elle lui dit « Vous auriez préféré un petit marin ?» Il lui dit « Oh Judith, je vous en prie, ne me demandez jamais ça, un marin. Non alors. » Elle lui fait « Même pas pour nous ?» Il lui dit « Même pas pour vous. Même pas pour le monde entier. » Et puis, pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que vous dites... Pourquoi tout ça puisque vous me dites qu'ils sont des nôtres? Pourquoi? Puisqu'ils sont des nôtres, pourquoi faut-il agir comme ça? Je ne comprends pas. Elle lui dit, ils sont des nôtres, en tout cas. Oui, mais on n'est pas vraiment sûr. Vous avez vu les deux garçons? L'on s'est trompé. Ce ne sont pas des nôtres. On s'est perdu. On risque encore d'avoir des problèmes avec eux. Non. Il faut rester sous nos gardes. Et puis... Ils ne sont pas mûrs, même s'ils sont des nôtres. Ils ne sont pas mûrs pour certaines choses. Harold lui dit, mais s'ils ne sont pas des nôtres, on les a fait entrer chez nous, et pourquoi? Ils vont savoir des choses, que faire? Elle soupire et lui dit, eh bien, nous serons obligés, c'est de nous en débarrasser. Tous les deux. Alors, elle lui fait, Alexis? Elle lui dit, oui, et son ami? Peut-être les deux ensemble? Ou l'un après l'autre? Ou juste un? On ne sait pas, on verra. Alors, elle demande, et la famille? Elle lui fait, là, c'est programmé déjà depuis le début. Ils seront transportés dans un monde privilégié. Rien d'autre. On les transportera, mais plus tard, si vous me comprenez. Harold lui dit, mais moi je ne veux plus m'occuper de ce genre de choses. Elle lui dit, et si l'on vous en donnait l'ordre, vous le ferez? Et pourquoi est-ce que il n'y aurait que moi qui me payerais tout le sale travail? Elle lui dit, c'est parce que vous aimez ça. Vous aimez l'aventure, le frisson. Elle lui dit, peut-être bien, mais on peut trouver dans des choses plus douces. Nous sommes la face cachée de ce monde, comme tout envers de décor, c'est guère reluisant. Le directeur des relations humaines de la Grinjean est dans son bureau. Il prend son téléphone. Allô? je suis bien au siège Franc-Blanc.
Oui, monsieur.
Bonjour, je suis le directeur des relations humaines de la Grand-Jean et j'aimerais parler à votre directeur des relations humaines.
Bien, ne quittez pas, monsieur.
Il attend un peu et...
Allô ?
Allô, c'est vous, Judith ?
Oui.
Je suis directeur des relations humaines de la Grand-Jean. Je vous téléphone au sujet de ces deux jeunes gens, prudents et servants. Vous voyez ?
Oui.
Il lui dit, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous tenez tant à ce qu'on les embauche ?
Il lui répond,
parce que je m'intéresse à eux, il demande. Et le groupe ? Elle lui dit, si je m'intéresse à eux, le groupe aussi.
Il lui fait,
et c'est bien ça, mais pourquoi deux ?
Elle lui répond,
parce que l'un ne peut pas vivre sans l'autre, il demande.
Indéfiniment ?
Elle lui répond, nous verrons plus tard.
Celui que l'on doit garder,
lui demande, lequel vous intéresse ?
Elle lui dit, le plus fort.
Et quelques jours plus tard, les deux garçons reçoivent une lettre, chacun d'embauche.
C'est la joie dans les deux familles. Alexis dit à sa mère, fini la misère. J'aurai un bon salaire et plus tard un appartement de fonction offert par la Franc-Blanc Compagnie.
La mère de Mathieu invite à déjeuner les prudents.
Lundi matin, ils vont sur le lieu de travail, qui se trouve à Versailles, un peu en retrait de la ville. C'est une grande bâtisse toute blanche de 5 étages. Il y a un parking devant l'immeuble, avec des arbres, des fleurs. Derrière l'immeuble, il y a des serres et un jardin. Mais le travail se fait surtout en laboratoire et sur ordinateur.
L'on fait des expériences virtuelles en 3 dimensions. Ça se passe surtout en chiffres sur écran. Et de temps en temps, de produits que l'on mélange dans des éprouvettes. Le travail, c'est de faire de la recherche sur les végétaux, légumes, fruits, pour les améliorer ou en créer de nouveaux. Faire des fruits et légumes de très bonne qualité, robustes, pleines de vitamines. Et même qui protège des maladies, vaccines, etc. Bien entendu, il faut qu'il soit beau, coloré et ait une belle forme.
Ils entrent dans l'entreprise à 9h. Belle entrée, mur sol et banque d'accueil blanc. Tout est blanc. Le blanc, c'est la Grand-Jean. Blanc égale propreté, pureté, clinique, etc. Même les hôtesses et les gardes sont en blanc. Et le blanc est dans toutes les entreprises.
Thank you.
retrouver dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.